billet Codornu, on se retrouve pour parler alors de la région. On était en plein dedans avec le Parlement de la mer, mais la région, c'est évidemment beaucoup d'autres compétences, notamment, par exemple, les transports et les transports ferroviaires. Alors on sait que la région a une action visible depuis pas mal de temps, au niveau, par exemple, de la, alors de, je sais pas, du sauvetage ou de la remise en action des ce qu'on appelle les petites lignes, des lignes non rentables qui étaient fermées ou qu'on allait fermer définitivement.
Oui, oui, tout à fait. En fait, au niveau des transports, et notamment avec la SNCF, donc nous avons une vision très très globale. Nous parlerons peut-être de la ligne LGV, mais c'est vrai que sur les petites lignes, il est important, nous qui avons la compétence des transports, notamment des TER, de pouvoir avoir une réponse toujours adaptée. Alors bien sûr, c'est des enveloppes très très importantes, les transports. Donc c'est certainement un des plus gros budgets, donc au niveau de la collectivité régionale, mais la présidente, comme Jean-Luc Gibelin, le vice-président des transports, sont très attachés sur toutes ces petites lignes, Montrégeau-Saint-Gaudens, c'est un certain nombre de lignes que je pourrais énumérer, qui doivent donc être reconnectées, pour permettre justement donc l'équilibre des territoires avec les populations. On parle souvent de fracture numérique, mais une fracture sociale avec les transports, et c'est vrai qu'il y a souvent donc ces demandes avec les personnes qui travaillent donc soit dans les métropoles, soit donc des déplacements donc interurbains, ont besoin d'avoir ces lignes qui elles puissent être donc relancées. Donc nous avons prévu donc dans des budgets très très importants.
Oui, parce que ce sont des lignes déficitaires, donc c'est une politique volontariste.
C'est un choix politique qu'on assume pleinement, et puis en même temps qui rentre dans la transition énergétique, puisqu'en même temps on est aussi sur la volonté d'avoir une région énergie positive donc en 2025, et donc c'était la stratégie de la présidente Carole Dalia d'être sur tous les fronts, donc tant sur les déplacements que sur les problèmes de pollution, donc les problèmes liés donc aux particules fines, et donc c'est une réponse vraiment très très
oui,
stratégique.
Oui, c'est plus de trains, moins de voitures.
C'est plus de trains, moins de voitures. Également, il y a des plans vélo, donc il y a le plan hydrogène avec donc demain donc des trains qui circuleront avec de l'hydrogène comme des bus aussi, donc avec des commandes qui sont actées. Mais tous ces éléments, alors c'est vrai que toutes ces infrastructures de chercher comment aussi l'embranchement donc des réseaux ferrés avec les ports, donc le port de Port-la-Nouvelle, le port de Sète, donc qui nous permettent de pouvoir doubler et donc les trafics sur Sète par exemple, avec une nouvelle technique qui permet donc de pouvoir mettre donc des wagons donc avec un système de rails qui coulisse et derrière nous fait gagner du temps, et donc ces embranchements ferroviaires donc va nous permettre d'aller un peu plus loin. Et puis c'est aussi la ligne LGV où effectivement donc vous l'avez vu hein, donc il a fallu donc beaucoup de force et de courage à tous les élus et bien sûr à la présidente Carole Dalia qui a réussi à mobiliser l'ensemble de tous les élus, quelle que soit leur opinion politique, pour que la ligne LGV soit relancée. Bon, là on est sur 2035.
Oui, c'est du moyen.
Voilà, c'est du moyen terme. Et puis également une petite incohérence donc sur le fret voyageur donc entre Montpellier et Béziers, et il n'y a pas une réponse donc entre Béziers et Perpignan, et là Marisa Arditi donc nous a sollicité, mais on regarde ce dossier avec beaucoup d'attention, moi qui suis aussi président du parc naturel régional, donc comment arriver à avoir du fret donc et voyageurs sur le dernier tronçon qui sera manquant avec des aménagements très très impactant pour nos paysages, très très coûteux, mais je crois qu'on n'a pas trop le choix, et c'est là où il faudra qu'on porte avec beaucoup de force ces dossiers pour qu'on puisse avoir une vision donc sur du moyen et long terme.
Oui, ce que vous voulez dire par là, j'imagine, Didier Codorniou, c'est qu'aujourd'hui, la ligne actuelle, on le sait, elle passe dans les étangs, pratiquement au niveau de la mer, qu'elle aura les pieds dans l'eau prochainement, et que par contre, la prochaine ligne à construire, elle devra être construite un peu comme l'autoroute parfois, bien au-dessus de toute cette zone humide.
Oui, je crois qu'il faut tenir compte d'un élément important sur l'augmentation de la température à 2100. On est à peu près entre 2 degrés et 5 degrés, donc nous on espère qu'on ne dépassera pas les 2 degrés, mais on aura une élévation donc du niveau de la mer et donc des étangs, et donc il est important de sécuriser donc ce passage-là par un déplacement et un nouveau tracé, donc qui demandera effectivement des ouvrages encore plus donc structurants, et c'est là où il faut vraiment qu'ils soient intégrés aussi au paysage donc de la Narbonnaise, notamment du parc naturel régional de la Narbonnaise. Mmh. Voilà donc deux sujets qui sont des sujets sensibles, mais je crois qu'il faut il faut les appréhender avec beaucoup de détermination et aussi avec humilité, hein, parce que bon, c'est des sujets qui sont quand même pas simples.
Oui, et qui coûteront cher, il faut pas se voiler la face à ce niveau-là. Mais c'est une vision assez lointaine qui est indispensable.
Complètement.
Alors, on va terminer quand même un peu de politique politicienne, puisque rappelons quand même que vous êtes responsable départemental des radicaux de gauche, Didier Codorniou, depuis pas mal de temps. Alors, on le sait, bon, c'est un sujet qu'on évoque assez peu parce qu'il est à une autre échelle, c'est l'élection présidentielle, mais on a vu quand même ce qui s'est passé récemment avec une tentative, alors divers candidats de gauche qui s'entendent pas, une tentative de Madame Taubira de réunir tout ça qui a complètement échoué puisque elle n'a même pas réussi à obtenir, je pense, les 500 voix nécessaires. Elle n'est plus dans la course. Quelle était votre position? Alors, vous, en tant qu'homme politique, mais également maire, qui peut parfois parrainer des candidats.
Oui. Alors, c'est vrai que sur les parrainages et sur ce qui se passe donc au niveau des présidentielles, nous, on aurait aimé, les radicaux de gauche, je crois qu'on n'est pas seul, donc à ce que la gauche arrive donc à trouver et à lancer des primaires pour qu'il y ait un seul candidat ou candidate qui puisse permettre donc de fédérer toute la gauche. Et puis on s'est aperçu que cette gauche, d'ailleurs, moi je l'ai dit à plusieurs reprises, c'était la gauche la plus stupide, excusez-moi le terme, la plus conne du monde, de pas avoir réussi à s'entendre pour que on puisse avoir un candidat ou une candidate. Comme vous le savez, pour être deuxième tour, il faut faire au moins 20 ou 25%. Et donc là, aujourd'hui, donc on s'aperçoit que tous les égaux l'ont emporté. Et donc, nous, on est vraiment on est désolés. La candidature de Taubira, Christiane Taubira, était, me semble-t-il, une bonne chose dans son esprit, puisqu'en même temps, ça venait d'une démarche donc citoyenne, de forte mobilisation. 450 000 personnes se sont exprimées et l'ont désignée.
Ça a été improvisé, quand même.
Je ne sais pas si ça a été improvisé, mais disons qu'il y a une participation citoyenne. 450 000, donc c'est bien plus que l'ensemble de tous les partis. Et donc, Christiane Taubira, nous, on l'a soutenue, donc les gens des radicaux de gauche, avec deux orientations. La première, c'était effectivement qu'elle mette tout le monde d'accord sur donc cette primaire donc avec tous les candidats. Et puis, donc qu'on désigne un seul candidat ou candidate. Elle n'a pas réussi et donc on s'est retiré. Il y a des radicaux de gauche qui ont continué à lui apporter son parrainage, ce qui n'a pas été le cas pour moi. Et aujourd'hui, je n'ai pas déposé donc d'offre de parrainage, tout simplement parce que je me suis pas retrouvé dans ce micmac donc de gauche éclatée et pas tout à fait satisfait de la politique qu'a portée notamment les trois premières années donc le président de la République un certain nombre de dossiers, sur le partage de la richesse, sur la politique des logements, sur un certain nombre de justice sociale où je me suis pas retrouvé, et donc je considérais qu'il pratiquait une politique très droitière qui a un peu changé avec la venue du nouveau Premier ministre, donc Jean Castex.
Oui, alors justement, donc là, pour vous, pour un homme de gauche, vous le regrettez, le constat est forcément pessimiste, l'élection se profile, Bon, il y a des grandes chances que M. Macron se retrouve à la présidence pour un deuxième mandat. Quels sont vos espoirs par rapport à ça? Puisque, bon, vous l'avez dit, il a infléchi sa politique, vous ne la désapprouvez moins peut-être qu'au début. Mais c'est quand même pas tout à fait vos espoirs par rapport à un homme de gauche.
Non, mais je suis bien sûr déçu, je suis frustré. Je pense qu'il faudra tirer des leçons donc de la présidentielle. Il y aura donc les législatives qui vont suivre. Et je pense qu'il peut être très très intéressant de réfléchir avec les partis qui voudront réfléchir ensemble, donc de travailler sur peut-être donc un seul et même parti qui incarne bien les valeurs de gauche. Je sais que la présidente Carole Delga donc réfléchit aussi donc sur cette vision qui pourrait finalement donc on pourrait s'y retrouver. Mais aujourd'hui voilà nous sommes en pleine déception. C'est pas la première fois que la gauche a été déçue et que la gauche donc n'arrive pas à fédérer. Mais il y a tout le travail à reconstruire, donc ça va être un chantier considérable. Mais je suis prêt à y participer une fois que toutes les élections seront passées.
Voilà, donc un changement, une vision qui sera ce qu'elle sera à ce niveau-là. Pour les législatives, avez-vous quelques stratégies d'union, alors au niveau départemental, par exemple, des circonscriptions de votre coin?
Oui. Alors on discute et on réfléchit aussi beaucoup avec les radicaux de gauche et avec nos partenaires, avec le Parti socialiste, avec le Parti communiste, comment donc avoir donc une candidature qui pourrait être donc sur les trois circos. Voilà, comme vous le savez, il y a aussi donc Occitanie en commun, hein, donc la structure qu'apporté Carole Delga pour les régionales, qui pourrait être aussi donc une structure qui élabore donc cette stratégie pour les législatives. Quoi qu'il en soit, nous avons donc des candidates et des candidats sur les trois circos. Voilà, donc au moment venu, nous affirmerons nos intentions, nos ambitions, et on essaiera de trouver ces points d'équilibre avec donc l'ensemble de nos partenaires.
Voilà, merci. Mais on le sait, donc on le voit, Didier Codorniu, vous le confirmez, les radicaux de gauche seront présents dans l'Aude et puis probablement dans d'autres endroits également, et dans leur fief peut-être plus traditionnel, du côté du Tarn-et-Garonne peut-être également, on peut l'imaginer.
En fait, nous serons sur les 13 départements.
Parfait. Merci Didier Codorniu d'avoir fait le point, alors en tant que maire de Grussan, en tant que également premier vice-président de cette région Occitanie. Le prochain invité, on restera un petit peu quand même dans la mer, même beaucoup, puisqu'il s'agira de Henri Martin, le maire de Port-la-Nouvelle, qui va nous parler en long et en large de l'avancement des travaux. On l'a à peine évoqué, mais il y avait tant de choses à évoquer entre-temps. Merci en tout cas, merci aux auditeurs de nous avoir suivis. Rendez-vous à la semaine prochaine.
Merci, Jean-Claude Fulès.